Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez. Chaque jour, vous montrez que oui, la France bouge et que vous êtes les acteurs de ce changement. C'est la journée mondiale sans tabac, l'occasion de vous aider à arrêter justement de fumer. Et vous allez voir que les innovations ne manquent pas chez nous, ici en France. Ils sont spécialistes de l'étanchéité depuis 1908. Ils ont su rester en famille. Soprema est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis c'est la journée nationale de l'eczéma. Demain, si vous êtes atteint, une appli va venir vous aider. C'est la solution, notamment pour vous donner des conseils. C'est ça, la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, on vous attend. Décrochez votre téléphone. Si vous êtes fumeur ou ancien fumeur, venez témoigner. Car c'est la journée mondiale sans tabac aujourd'hui, Anissa.
Et peut-être que ce vendredi 31 mai sera pour vous le top départ d'une vie sans tabac. Vous n'avez pas de solution, vous avez besoin de conseils, venez ici, posez toutes vos questions aux invités de Raphaël Duchemin. 39-21, c'est le standard, 50 centimes la minute. On vous lit également sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et vous allez voir qu'il y a aujourd'hui à votre disposition tout un arsenal pour vous convaincre de ne plus fumer, pour accueillir ceux qui l'ont invité, qui l'ont inventé cet arsenal. À mes côtés, comme chaque jour, Elisabeth Assayag est là, bonjour.
Salut Raphaël et bonjour à tous.
Et notre coach Laurent Chauhin, DRH du groupe Mazars, bonjour Laurent.
Qui ne fume pas, bonjour Raphaël.
La cigarette, c'est vrai, vous avez raison, c'est une addiction. Il ne suffit pas de dire je m'arrête pour que ça marche. Et quand on est un ancien fumeur, forcément on en est convaincu. Bonjour Geoffrey Kretz.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le fondateur de l'appli Quit. KWIT. Vous avez créé cette solution parce que vous-même, vous vouliez arrêter de fumer et qu'à l'époque, vous ne trouviez pas vraiment de moyens adaptés.
C'est exactement ça. En fait, je voulais arrêter de fumer. J'ai un background de développeur, enfin de créateur d'applications. Et donc, mon premier réflexe a été de regarder sur l'App Store ce qui existait à l'époque comme application et ce que j'ai trouvé, en fait, ne me plaisait pas. Où ça avait, le design n'était pas correct, où les fonctionnalités n'étaient pas suffisantes, et donc j'ai décidé de faire la mienne.
C'était en 2012, c'est ça ?
C'est ça, en 2012.
Ça vous a pris combien de temps de faire votre propre application et comment vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez mis à l'intérieur ?
Alors, la première version était surtout basée sur ce que je souhaitais vraiment trouver dans l'application, donc toute une partie ludique qui valorisait chaque petit progrès que j'allais avoir à travers le temps, parce que je sais qu'au début c'est très difficile, il y a beaucoup de moments où on a envie de fumer. On est proche de craquer, c'est là qu'il faut de la motivation.
Et donc ça, on le trouvait en allant sur les différentes applis.
Il y avait, mais pas de la façon dont je l'avais en tête. Et surtout, les applications que je trouvais n'étaient pas très jolies. Et j'ai quand même une sensibilité pour les choses belles et faciles à utiliser. Et donc, c'était ces différents manques qui m'ont donné envie de faire mon application.
Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de votre appli ? Qu'est-ce que vous avez mis ?
Alors, ludique. Aujourd'hui, en gros, c'est trois briques qui sont plus ou moins similaires. Donc, il y a une partie ludique qui va en fait, valoriser chaque petit succès dans la nouvelle vie de non-fumeur, de l'ancien fumeur, va être valorisé par des points. Avec ces points, il va gagner des niveaux. Et avec ces niveaux, l'ancien fumeur va gagner des grades. Donc, en fait, il débute, il est novice, puis amateur, puis professionnel. Et à la fin, le but ultime, c'est de devenir le quitter ultime. Ce qui arrive au bout d'à peu près deux
quitter.
Ans.
Vous le dites quitter, un quitter.
Le quitter ultime. Ensuite, il y a toute une partie autour du renforcement positif. Donc, ce qui est lié, en fait, le jeu amène ça, cette brique de renforcement positif. Puisqu'il faut faire comprendre que, en fait, l'ancien fumeur, le fait d'arrêter de fumer, c'est un peu son propre super-héros. Ça, c'est un message qu'on veut véhiculer. Et enfin, la dernière brique, qui est arrivée un peu plus tard, c'est toute la partie thérapie comportementale et cognitive, qui sont en fait des thérapies brèves qui vont aider l'ancien fumeur à comprendre la relation émotionnelle et comportementale qu'il avait au tabac.
On est d'accord que si moi, demain, je décide de créer mon application toute seule pour arrêter de fumer, je ne vais pas forcément y arriver. Vous vous êtes fait aider, notamment de spécialistes. Je crois que vous êtes allé voir quelqu'un du côté de Pittsburgh.
Oui, ça s'est arrivé en 2015. En fait, il y a un chercheur de Pittsburgh, un expert en santé digitale qui m'a contacté pour... à la fois faire des études cliniques de son côté et pour nous aider à construire et à solidifier la solution d'un point de vue justement médical et scientifique.
Elisabeth, ce qu'on n'a pas dit, c'est que le nombre de fumeurs est en train de baisser. Ça va dans le bon sens.
Ah mais complètement, c'est totalement inédit là. En deux ans, moins 12% de fumeurs
En France, le nombre de fumeurs a baissé de 1,6 million. Peut-être qu'autour de la table, vous en faites partie. Dans ce chiffre, les fumeurs, il y a les fumeurs qui ont arrêté la cigarette, mais aussi les jeunes qui ne sont pas entrés dans le tabagisme. Donc c'est une baisse d'ampleur totalement inédite, hein, 12% en 2 ans.
Geoffrey, vous en faites partie de ces anciens fumeurs qui ont décidé d'arrêter.
Mais j'avais arrêté avant les 2 ans.
Ouais, mais ça a pris 3 ans. Ça veut dire que même en étant convaincu, vous avez mis du temps. Est-ce que, par exemple, dans votre appli, vous tenez compte de ces hésitations et de ces possibles rechutes?
Oui, on a une approche non culpabilisante. Et en fait, avec Cuit ou non Cuit, c'est aussi quelque chose qui la différencie un peu des concurrents, c'est que l'ancien fumeur a le droit de rechuter. Et en fait, le cas typique, c'est une personne va arrêter de fumer pendant 3 semaines, elle va se sentir super sûre d'elle, elle va sortir avec des amis, elle va prendre un ou deux verres d'alcool de trop, on va lui proposer une cigarette, elle va en fumer 2 ou 3. Et un cas typique, le lendemain, elle va s'acheter un paquet, elle va se dire dans sa tête, je suis nouveau fumeur. Et nous, dans Cuit, on va autoriser cette personne à enregistrer ses cigarettes et elle verra qu'elle ne perd pas ses progrès. En fait, il y a juste une caractéristique qu'on appelle l'énergie qui va un peu baisser. Et avec le temps, elle verra qu'elle va remonter. Donc finalement, cette personne-là, elle n'est pas pénalisée dans sa rechute qui fait partie du processus d'arrêt.
Que dit notre coach de l'initiative Cuit?
D'abord, elle m'intéresse. Donc, je ne suis pas fumeur, mais j'ai 2 ados qui, eux, l'ont été. Donc la réflexion des parents, je pense qu'il y en a plein qui nous écoutent, c'est de se dire, même si ce n'est pas pour moi, c'est intéressant de voir si on peut aider soit ses proches ou... Moi, le deuxième élément qui m'a frappé et qui est très intéressant, Geoffrey, c'est que j'ai vu que des gens qui n'avaient pas forcément l'intention d'arrêter de fumer avaient vu l'appli, puis finalement s'y étaient mis. D'où ma question qui est de se dire, il n'y a pas de raison de se limiter finalement à la fumée, parce que ce que vous avez mis en place, je trouve que c'est intéressant, vous le dites vous-même, la logique de dire finalement on ne va pas faire du name and shame, on ne va pas mettre de la honte sur les gens, on va leur donner le plaisir d'arrêter, bah, vous pouvez le faire pour d'autres addictions. Et donc est-ce que ça c'est la suite de Cuit?
Tout à fait, donc, c'est un des volets qu'on va explorer. En fait, donc, les TCC aident non seulement à les gens dans le sevrage tabagique, mais les aides pour plein d'autres addictions, genre toutes les addictions en fait, donc alcool, cannabis.
Technique, comportementale, c'est ça?
Oui, thérapie comportementale et cognitive. Pardon. Et donc ça les aide, et donc alcool, cannabis sont les premières qu'on va explorer. Et ce qui est encore mieux, c'est que les TCC aident également pour tout ce qui est troubles du sommeil, troubles de l'anxiété, de l'angoisse et alimentaire. Donc l'objectif final pour nous est de devenir un jour la plateforme du bien-être par le changement du comportement.
En France et ailleurs aussi, parce que Cuit marche chez nous, mais également ailleurs. Combien de téléchargements aujourd'hui?
On a 1 300 000 téléchargements. Et à ce jour...
Vous êtes les plus téléchargés d'ailleurs, c'est la première
application.
Pas dans
le monde, en France, oui.
En France, oui.
Dans le monde, on est dans le top 5. Et l'application existe en 15 langues.
Vous aviez commencé par faire ça à côté de votre travail. Vous avez depuis, évidemment, quitté votre travail pour vous consacrer à plein temps à Cuit. Combien vous êtes aujourd'hui?
Aujourd'hui, on est 10 dans l'équipe. À travailler comme mix de développeurs, de personnes du marketing et de chercheurs.
On reste ensemble et on continue à parler Journée mondiale sans tabac aujourd'hui et solutions.
Il est 13h08.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Vous êtes peut-être entre-temps passé à la e-cigarette et vous voulez baisser votre dose de nicotine. Enovap va peut-être vous aider. A tout de suite.
Nous sommes le vendredi 31 mai. La France bouge. Aujourd'hui, c'est la 32e édition de la Journée mondiale sans tabac. Vous essayez d'arrêter de fumer. Vous avez réussi. Venez nous le dire. Venez témoigner. Venez nous parler des méthodes que vous avez utilisées au 39-21. C'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. On vous lit également sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag Europe 1, Raphaël.
Vous êtes de plus en plus nombreux à arrêter la cigarette, on l'a dit, hein, et à choisir aussi de passer à la cigarette électronique. Sauf qu'il y a débat, car à l'intérieur, évidemment, reste la nicotine. Ça n'est donc pas un arrêt total de tabac. Bonjour Maria Aranheltz.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes
Merci.
La cofondatrice d'Enovap. Alors, je crois que c'est une cigarette totalement unique au monde. Elle est d'ailleurs brevetée. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Elle a 2 réservoirs, c'est ça qui fait sa particularité?
Oui, exactement. Alors déjà, donc, c'est une cigarette électronique ou vaporisateur personnel, on les appelle aujourd'hui aussi. Et donc, elle a 2 réservoirs qui permettent en fait le dosage de la nicotine. Donc on sait aujourd'hui que les besoins nicotiniques varient au cours de la journée ou selon différents contextes. Et aujourd'hui, les cigarettes électroniques normales proposent un dosage constant de nicotine. Et c'est pour ça que, en fait, on a voulu développer ce produit qui permet de s'adapter aux besoins du fumeur à différents moments de la journée. Par exemple, quand on a une soirée où on boit un petit verre d'alcool ou plus, les besoins en nicotine peuvent augmenter à ce moment-là. Et avec notre produit, le fumeur peut instantanément augmenter sa dose de nicotine pour éviter le risque de retourner vers une cigarette normale quand ses besoins sont plus intenses.
C'est Alexandre Schek avec qui vous travaillez qui a eu l'idée de ce concept. Et vous, en parallèle, vous êtes scientifique, vous étiez aussi en train d'essayer de développer quelque chose. Comment est-ce que vous avez mixé finalement vos découvertes et vos idées ?
Alors oui, Alexandre était un gros fumeur. Il fumait un paquet de cigarettes par jour et il a commencé en effet la cigarette électronique. Et il avait plusieurs cigarettes électroniques avec plusieurs dosages de nicotine. Et c'est comme ça qu'il s'est dit en fait comment on peut inventer quelque chose qui nous permette de s'adapter à ses besoins. Donc il a commencé à former une équipe autour de lui. Et moi à ce moment-là, en fait, j'avais fini mon doctorat donc dans les sciences de l'inhalation.
C'est un créneau quand même, ça. Hein
oui, c'est un peu niche. C'est la déposition des particules médicamenteuses dans les poumons, pour être plus précise. Et j'avais envie, après 3 ans dans une grande compagnie en recherche et développement dans la cigarette électronique, j'avais envie de créer mon propre projet et ou rejoindre une petite structure. Et c'est là que j'ai rencontré Alexandre, en fait. Et je l'ai rejoint et j'ai adoré le projet.
Et du coup, ça permet, avec ces deux réservoirs, d'aller vers l'arrêt du tabac parce qu'on peut réguler et donc diminuer.
Oui, alors en fait, c'est deux phases. La première phase, c'est l'arrêt du tabac en dosant soi-même la nicotine. Donc ça, c'est pour que les fumeurs arrêtent la cigarette traditionnelle. Et une fois qu'ils ont arrêté la cigarette traditionnelle grâce à ce système de dosage qui est plus facile, on leur propose, s'ils le souhaitent, une diminution de la nicotine.
Parce que c'est une cigarette qui est connectée.
Exactement.
Et qui va mesurer le taux de nicotine.
En fait, la cigarette, elle est connectée à une application mobile et elle peut enregistrer votre profil de consommation, toute votre consommation nicotinique tous les jours. Donc, on se base sur le mois passé. Et on a enregistré ces profils de consommation et ça nous permet de faire une diminution graduelle et personnalisée à chaque fumeur de son apport en nicotine. Si à tout moment, la dose de nicotine qu'on donne n'est pas la bonne, le fumeur peut bien sûr, ou l'utilisateur peut repasser en mode manuel pour ajuster lui-même la dose de nicotine dont il a besoin.
Vous avez commencé à commercialiser en janvier, c'est ça,
oui.
Hein, janvier 2019. Ça a pris du temps parce qu'il a fallu trouver des fabricants, notamment. Vous avez essayé en Europe. Vous avez dû vous tourner vers la Chine,
oui.
Parce que c'était trop cher ici en Europe.
Alors, plusieurs raisons. Oui, au début, on avait pensé peut-être l'Europe de l'Est ou le Maroc. Et on s'est tourné vers la Chine. Alors déjà, oui, il y a des raisons de coût. Le produit arrivait à un coût qui était trop élevé quand on était en Europe. Et surtout, en fait, de savoir-faire. On a vu que les industriels chinois, vu que c'est eux qui ont créé cette technologie, ça fait depuis 10 ans qu'ils sont sur ce créneau et ils sont imbattables. Donc, ils ont déjà, en fait, adressé beaucoup de problématiques. Et c'est pour l'industrialisation du produit, c'était beaucoup mieux de le faire en Chine.
Que dit notre coach, Laurent
Schwartz ? Il y a beaucoup de science derrière tout ça. Alors, je sais que c'est le CNRS qui est venu vous trouver, non pas vous qui êtes allé trouver le CNRS.
Oui.
Mais au-delà de ça, j'ai cru comprendre qu'il y a tout un projet derrière de machine learning.
Oui.
Pour moi, le machine learning, c'est comment, par les grandes séries de données, les machines apprennent et vont nous rendre plus intelligents. Comment ça s'applique à votre domaine ?
Alors, en fait, la cigarette électronique Innova, pour l'instant, elle enregistre les données de consommation. Et petit à petit, il va y avoir plus de données qui vont être enregistrées sur les bases de données. Donc, par exemple, vous avez toutes les bouffées. Donc, aujourd'hui, on a récolté déjà 2 millions de bouffées depuis janvier. Donc,
c'est une bouffée.
Alors, une bouffée, c'est quand vous tirez sur... Donc, on connaît la durée, ouais. La dose de nicotine, on a la géolocalisation.
Donc, en fait, vos cigarettes électroniques sont connectées à un gestionnaire de base de données.
Exactement. Et en fait, on va apprendre, on va pouvoir avoir plein de données et savoir de quoi elles dépendent. Donc, par exemple, voir que certaines doses nicotiniques sont consommées plus tard dans la soirée. Et en fait, plus on va avoir de données, plus on va pouvoir apprendre sur le profil des consommateurs et mettre ça en place dans l'algorithme. D'accord. Pour l'instant, c'est un algorithme qui est une diminution, mais il va devenir de plus en plus intelligent, plus on a de données à lui fournir.
Donc, Big Brother is smoking you, en fait.
En quelque sorte, ça pose évidemment la question de la protection de ces données.
Exactement. Sur un serveur de santé, elles sont anonymisées, donc c'est juste des données pour la science.
Là, on parle cigarette, on parle e-cigarette. On est aussi exposé, ça on ne l'a pas reprécisé, mais c'est important de le dire, Elisabeth, même si on ne fume pas.
Mais oui, impossible d'y échapper, c'est ce qu'on appelle la fumée tertiaire. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Ce sont les particules issues du tabac qui restent en suspension dans l'air et qui adhèrent à toutes les matières rugueuses de notre environnement. On ne la connaît pas forcément, mais on y est quasiment tous exposés. D'ailleurs, il y a le magazine 60 millions de consommateurs qui l'évoquent là dans son hors-série de mai-juin. Ils évoquent cette problématique de fumée tertiaire, notamment concernant les enfants. Vous savez, les enfants en bas âge, quand ils rampent au sol, ils absorbent ainsi 20 fois plus de fumée tertiaire que les adultes.
Et Geoffrey, vous me disiez tout à l'heure que quand on dort à côté d'un conjoint qui fume, on inhale aussi une partie de ces fumées, ou en tout cas des rejets nicotiniques.
C'est exactement ça. Pendant la nuit, en fait, la nicotine ingérée la journée et puis ces produits sortent du corps et le fait de respirer très proche par le souffle, surtout par le souffle, et le fait de respirer dans une chambre confinée ou même une grande chambre, ça ne change rien, c'est la proximité. Donc c'est vrai que le conjoint, c'est la première source de tabagisme passif.
Et il y a une différence entre tabagisme passif et fumée tertiaire. Sont des nuances particulières, Marie ?
La fumée tertiaire, c'est celle qui est pour le tabagisme passif, en fait.
Oui, en fait, ce sont des micro-particules que l'on trouve sur le canapé, dans la moquette.
Donc c'est pareil. Oui. C'est juste pour être précis par rapport à nos auditeurs.
Par contre, juste, je voulais rectifier. Donc la cigarette électronique, donc c'est pas il n'y a pas de tabac, donc c'est juste un liquide qui contient de la nicotine, et la nicotine donc est beaucoup, enfin il n'y a pas de risque qui est associé à la nicotine.
Il n'y a pas les autres substances.
C'est le cocktail. Le risque, c'est le cocktail.
Le monoxyde de carbone ni le goudron. Donc voilà, c'est ça la différence. Juste pour.
Vous avez raison, c'est bien de le préciser. On reste ensemble et on continue à parler tabac aujourd'hui et lutte contre le tabac sur Europe 1.
Il est 13h19.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Quand on est confronté aux addictions du matin au soir, forcément, ça donne des idées et des solutions apparaissent, comme un MOOC. A tout de suite sur Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 et aujourd'hui la France décide d'arrêter de fumer. C'est la 32e édition de la journée mondiale sans tabac. Vous avez envie d'arrêter, il vous manque des solutions, et bien vous avez bien fait de vous brancher sur Europe 1 parce qu'aujourd'hui on vous dit tout grâce à vos invités. Raphaël Duchemin, si vous avez des questions, c'est maintenant que vous pouvez les poser au 3921, le standard d'Europe 1, et sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et c'est vrai que quand on est confronté aux addictions du matin au soir et qu'on voit par exemple défiler des patients, on cherche forcément de nouvelles idées pour parvenir à les convaincre. C'est comme ça un peu qu'est né le MOOC tabac. Arrêtez comme vous voulez. Bonjour Anne-Laurence Lefaou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service du centre ambulatoire d'addictologie à l'hôpital européen Georges Pompidou et présidente aussi de la société francophone de tabacologie. Comment vous est venue l'idée de ce MOOC ? C'est assez original.
En fait,
surtout le titre d'ailleurs.
Oui. En fait, le titre, je l'ai choisi de façon à ce que les personnes qui s'inscrivent puissent se dire que de façon positive et proactive, on pouvait encourager les fumeurs à arrêter. Et aussi parce que depuis des années, dans mon exercice professionnel, tous mes collègues, puisque quand même il y a une dimension de santé publique dans la pratique de la médecine, disaient aux personnes « arrêtez de fumer ».
C'est dangereux,
c'est dangereux.
Vous allez mourir.
Voilà, des messages qui sont quand même parfois anxiogènes, négatifs. Et après, ça s'arrêtait là. Donc, j'ai souhaité proposer des solutions qui soient acceptables par les fumeurs. Et donc, comme j'ai fait pas mal d'enseignements depuis longtemps, j'ai souhaité faire un enseignement qui soit à la fois théorique, avec des connaissances scientifiques valides, bien sûr.
Donc quelque chose de beaucoup plus pédagogique, finalement, que ce qu'on pouvait entendre dans un cabinet médical.
Voilà. Et puis des ateliers qui alternaient avec des fumeurs qui participaient de toute façon tout à fait naturelle et qui exprimaient soit leur motivation, soit leur crainte, soit leur peur des médicaments, soit leur peur de la cigarette électronique. Enfin, il y avait à peu près tout. de façon à ce qu'on puisse balayer quand même à la fois des craintes, des freins, et puis qu'on puisse trouver ensemble des solutions. Hein. Par exemple, réduire progressivement, puisque l'addiction au tabac, une personne qui essaie, ben, dans 50% des cas, elle ne tient pas la semaine. Voyez, donc il faut dédramatiser les choses et puis les aider.
Et vous vouliez aussi tordre le cou à certaines idées reçues. Je regardais par exemple cumuler le patch et la nicorette ou fumer avec le patch, c'est impossible. Oui. Tout ça, ce sont des choses qui sont véhiculées et qui n'ont pas de fondement.
Non, parce que finalement, bon, alors les meilleures données dans les essais randomisés, c'est plutôt patch plus forme buccale, c'est le plus efficace. Il y a des médicaments. Il y a des tas de recherches qui avancent. Et puis, c'est surtout le tabac qui est dangereux, la fumée de tabac. Donc, si quelqu'un enlève un patch pour fumer, ça n'a aucun sens puisque ça diffuse dans son peau. Et voilà, la nicotine est toujours là, donc ça ne sert à rien. Il faut plutôt essayer de se dire, bah, c'est pas grave, vous inhalez moins, c'est le résultat qui est souhaité. Après, on verra comment on peut vous aider à avancer.
Alors, c'est 7 semaines de vidéos, c'est ça
Oui.
Avec des pros, vous l'avez dit, avec des ateliers aussi. Je crois qu'en studio, Marie et Geoffrey, vous connaissez les MOOC, hein, vous avez participé, vous avez regardé
J'ai regardé sur Internet, mais maintenant vous avez dit qu'il est toujours en ligne.
Non, il y a eu beaucoup de milliers de participants, mais
5000 personnes hein, qui
ont
suivi tout de même.
Et puis beaucoup de gens qui ont réussi. Contrairement, on m'a dit que par rapport aux autres MOOC, il y avait à peu près donc un taux de réussite très élevé parce que je fais des petits quiz. Mais le but, c'est aussi de renforcer soit les professionnels de santé, soit les gens qui suivent à se dire bon, je peux arriver à aider.
Laurent, le coach ?
Oui, moi j'ai une question en fait, Laurence, parce que je comprends bien l'intérêt. Bon, les MOOC, c'est donc les Massive Open Online Courses, donc théoriquement, c'est de l'accès en ligne d'éducation pour tout le monde. Mais en vous écoutant un peu, j'ai l'impression que ça s'adresse beaucoup, surtout aussi aux gens qui vont accompagner des gens qui vont arrêter de fumer.
Oui.
C'est-à-dire, en gros, je ne veux pas dire que c'est les enseignants qui parlent aux enseignants, mais c'est aux praticiens. Mais il y a cette idée de dire on va accompagner plutôt les accompagnateurs. Mais si, par exemple, je suis fumeur,
Il y a les deux volets. Ouais. Parce que les fumeurs se retrouvent dans les ateliers et il faut qu'ils sachent que c'est normal aussi, par des données scientifiques, qu'ils aient des difficultés. Hein, ça ne marche pas la première fois, il faut 4 tentatives en moyenne, il faut vraiment s'accrocher. Il y a des tas de messages comme ça qui sont utiles aux fumeurs, mais qui ne sont pas enseignés à des professionnels. Et c'est pour ça que j'ai souhaité faire ce MOOC, hein, parce que finalement, parfois, il y a des médecins qui nous appellent et qui disent « moi, je ne sais pas faire ». Donc, c'est vraiment un niveau de formation générale dans le pays qui est à améliorer pour surtout être positif et se dire on peut prendre en charge et ça va peut-être pas fonctionner de façon magique, ça, rarement.
Oui.
Et il faut trouver des moyens divers et successivement différents d'ailleurs.
C'est vrai qu'on fait beaucoup d'efforts, Elisabeth, oui. pour arriver à cette baisse du tabac dont on parlait tout à l'heure. Il y a eu énormément de choses qui ont été mises en place.
Mais oui, d'abord il y a le prix. C'est basique, mais le prix a explosé. Pour acheter un paquet de cigarettes, il faut compter presque 9 €. Et d'ici l'année prochaine, on va encore ajouter 1 €. Donc là, déjà, le prix a arrêté énormément de fumeurs. Il y a eu le paquet neutre en 2017. Là, quand on sort son paquet de cigarettes, ça fait moins, c'est moins joli. Hein, c'est un paquet souvent vert foncé, sans logo, avec des avertissements sanitaires,
des photos
repoussantes,
oui.
Chocs, qui ne nous donnent pas envie de fumer. Il y a eu ça. Il y a eu le remboursement des produits de substitution nicotinique. Depuis l'année dernière, les patchs, les pastilles, les gommes, les sprays sont tous remboursés comme n'importe quel médicament. Taux de prise en charge de 65%, c'est ça. Et si vous avez une mutuelle, vous pouvez avoir une prise en charge complète. Mm-hmm. Vous disiez pas les sprays ?
Non.
Alors, pas les sprays. Bon.
Pas les sprays. Et puis, la
cigarette électronique.
De la cigarette électronique, évidemment, elle fait baisser les risques pour la santé, c'est avéré, parce que justement, il n'y a pas tout ce cocktail de substances présent dans les cigarettes. Donc, c'est un vrai bénéfice pour la santé publique, parce qu'on tombe moins malade, forcément, avec les cigarettes électroniques.
On reste ensemble et on parle tabac et lutte contre le tabac aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on vous attend, vos questions au 3921 et sur Twitter, hashtag Europe 1, c'est la France qui bouge. À tout de suite.
Et jusqu'à 14h sur Europe 1, la France bouge. Aujourd'hui, c'est la 32e édition de la Journée mondiale sans tabac. Alors, comment arrêter? Quelles sont les solutions? Eh bien, Raphaël Duchemin vous les fait découvrir aujourd'hui grâce à ses invités. Vous pouvez réagir et poser vos questions sur Twitter, hashtag Europe 1, et au 3921, c'est le standard.
Eh oui, les innovations françaises pour arrêter de fumer. Avec nous, dans le studio d'Europe 1, Geoffrey Kretz, président fondateur de Quit, application alsacienne, strasbourgeoise, pour arrêter de fumer, la plus téléchargée chez nous en France. Maria Rand-Heltz, cofondatrice et directrice scientifique d'Enovap, cigarette électronique intelligente et connectée. Et puis le docteur Anne-Laurence Lefaou, fondatrice et chef du service du Centre ambulatoire d'addictologie à l'hôpital européen Georges Pompidou. Vous avez conçu le tout premier MOOC tabac arrêté comme vous voulez avec nous. Évidemment, Elisabeth Assayag et notre coach aujourd'hui, c'est Laurent Chauhin. Je crois qu'on a d'ores et déjà un petit message sur Twitter.
Oui, un message de Marc, fidèle auditeur, qui a posté un message avec le hashtag Europe 1. Il vous demande à tous les trois, le tabac est un fléau chez les jeunes comme chez les vieux, c'est un constat. Vos solutions sont-elles complémentaires d'un traitement de sevrage plus traditionnel?
Oui,
bien
docteur.
Sûr. Enfin, moi, ce sont des vidéos, mais ça explique comment on peut utiliser différents traitements. Et aussi des conseils, des techniques comportementales, comme on a déjà souligné tout à l'heure, l'importance de l'accompagnement, ne pas se sentir seul et profiter finalement de différentes occasions pour arrêter au plus vite.
Geoffrey, c'est aussi votre avis ?
Oui, tout à fait. Nous, en fait, l'avantage d'une application mobile, c'est que ça parle beaucoup aux jeunes. Aujourd'hui, les jeunes, ils vont faire leur téléphone, ils vont l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Et donc l'utilisation de Quit n'est pas incompatible avec des substituts nicotiniques en plus. Après, l'idée absolue, c'est d'aider à arrêter sans avec la thérapie digitale. Mais nous, tout ce que les gens prendront en plus pour rester non fumeur et le devenir, c'est bon à prendre. La mission reste le sevrage à la fin.
Elisabeth,
n'y a-t-il pas une addiction qui peut en remplacer une autre, notamment chez les jeunes?
Il y a, par exemple, avec la cigarette électronique, il y aura l'addiction à la nicotine. Mais quelque part, si c'est juste la nicotine, on a le temps de la traiter puisqu'elle est, elle tue personne. Donc, dans la durée, il faut peut-être quand même la traiter. Mais à court terme, c'est bien moins dangereux qu'une cigarette. Donc, c'est à conseiller.
Ça permet de passer d'un palier à un autre, finalement, et
exactement,
de diminuer progressivement et de se sevrer totalement. Marie ?
Oui, c'est surtout une diminution des risques. La cigarette électronique, c'est c'est un apport de nicotine qui permet aux fumeurs, c'est un peu une béquille pour l'aider à arrêter la cigarette qui a tous les produits qui sont nocifs. Là, on garde la nicotine. C'est un peu le même principe que le patch ou les pastilles. D'ailleurs, pour répondre à votre question, nous, notre produit, la cigarette électronique, ça peut être utilisé en combinaison avec le patch. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que l'efficacité est très bonne quand on combine les substituts nicotiniques avec la cigarette électronique. Et pour les gros fumeurs, ça peut être conseillé justement d'utiliser le patch en combinaison avec le vaporisateur personnel.
Anne-Laurence Lefaou.
Oui, alors le souci à l'heure actuelle aux États-Unis notamment, c'est que 70% des utilisateurs de cigarettes électroniques utilisent une petite cigarette électronique qui a une forme de clé USB et qui délivre des sels de nicotine très rapidement au cerveau. Et voilà, donc là, les préoccupations, c'est éviter que des jeunes ne l'utilisent et deviennent fumeurs. Donc, mais effectivement, les cigarettes électroniques sont des substituts nicotiniques oraux. Voilà.
Que dit notre coach ?
C'est une question bête, mais c'est pareil pour les hommes et pour les femmes, parce qu'en écoutant Geoffrey, par exemple, il y a une idée de jeu et de compète derrière, hein, gagner des, je ne sais plus comment ça s'appelle, des quitters.
Oui, des points d'expérience.
Et cette logique de compétition, elle est peut-être à tort dans mon esprit, plutôt masculine que féminine. C'est pareil pour les hommes et pour les femmes d'arrêter de fumer ?
Non. Enfin,
nous, on a quand même, l'audience, c'est 50-50 en termes de femmes et d'hommes qui utilisent Quit et qui réussissent avec Quit, c'est partagé. Parce que ce n'est pas du jeu, ce n'est pas une compétition en fait, on se bat avec personne.
On se bat contre soi-même.
Non, on ne se bat pas, on devient une meilleure personne. On progresse, on est plus heureux et plus libre.
Anne-Laurence pense qu'il y a une...
Mais de toutes les données scientifiques, on sait que les femmes, elles ont envie d'arrêter, elles peuvent arrêter de façon identique aux hommes, mais elles rechutent beaucoup plus que les hommes. Alors, on a diverses explications. Donc, le poids, qui est une crainte majeure chez les femmes. et aussi des caractéristiques parfois anxieuses que l'on retrouve plus souvent chez les femmes fumeuses. Et tout ça, ça nécessite vraiment de faire attention à une prise en charge plutôt personnalisée. Et donc, il y a de plus en plus de travaux, et qui sont encouragés d'ailleurs, pour étudier ces différences et trouver ce qui peut être adapté. Et ça, c'est très important pour que ça marche.
Est-ce que justement avec Quit, on peut personnaliser, on peut faire quelque chose qui nous ressemble ?
L'accompagnement est personnalisé à ses anciennes habitudes tabagiques. Donc en fonction de son profil de fumeur, déjà aujourd'hui, on a le parcours dans Quit varie en fonction des profils. Et c'est quelque chose vers lequel on va aussi aller de plus en plus, la personnalisation au plus près des attentes de l'utilisateur.
Elisabeth, je crois que vous avez trouvé d'autres applis aussi pour arrêter de fumer qui vont dans le bon sens.
Il y en a deux assez connues, mais qui ont fait leur preuve. Hein. Vous avez l'appli stop-tabac.ch. Hein. Dedans, il y a une rubrique « J'ai envie ». Lorsque, par exemple, on essaye d'arrêter de fumer, on a très, très envie d'en reprendre une. Là, on peut solliciter le coach qui nous demande à travers une vingtaine de messages écrits la liste des trois raisons personnelles les plus importantes qui ont fait que on a décidé d'arrêter de fumer. Et pour les plus tenaces, eh bien, ils peuvent recevoir des badges pour chaque étape franchie. Vous avez l'appli Tabac Info Service, un dispositif d'aide à l'arrêt du tabac qui a été développé par le ministère de la Santé, l'Assurance Maladie et Santé Publique France. Là aussi, si vous avez très, très envie de vous remettre à fumer, l'appli vous permet d'être en contact avec un contact téléphonique avec un tabacologue. Et sinon, vous avez une plateforme qui s'appelle Smoke Watchers. C'est une plateforme pour accompagner les fumeurs dans l'arrêt du tabac. Et elle existe depuis déjà pas mal d'années, hein, depuis 2014.
Je voudrais qu'on redise un petit mot sur le MOOC, docteur, parce que vous nous dites que ça a été un succès, 5000 personnes. On attend évidemment le suivant et pour l'instant, ça n'est pas prévu.
Ah, bah, enfin, c'est toujours une recherche de financement parce que, vous voyez, moi, je l'ai conçu, mais ensuite, bah, il y a tout ce qui est audiovisuel, le mettre sur une plateforme, qui ne sont quand même pas mon quotidien, il faut l'avouer. Et donc, j'ai besoin de retrouver un peu des financements, puis peut-être de modifier certaines choses. Puis, il y a toujours, on n'aborde pas tout et puis il ne faut pas tout garder. Enfin, voilà, c'est simple.
Donc,
en fait,
l'appel est lancé.
Oui, je vais essayer de trouver quand même quand on a besoin. On a encore 12 millions de fumeurs. On est un des pays les plus fumeurs d'Europe. Donc, c'est un sujet quand même qui n'est pas loin d'être gagné.
Oui, il y a encore du travail.
Il y a du travail.
Et toutes les solutions sont bonnes à prendre. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler tabac sur Europe 1.
Il est 13h39.
Merci. Europe 1, Raphaël Duchemin.
Elle existe depuis 1908 et spécialiste de l'étanchéité, Sporema, la Strasbourgeoise et l'entreprise qui va bien, merci.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours. Raphaël Duchemin, vous nous proposez dans l'émission de découvrir une entreprise française qui va bien. Aujourd'hui, elle est alsacienne.
Oui, et cette entreprise, vous avez peut-être déjà vu son nom sans savoir ce qui se cachait derrière. C'est Soprema. Bonjour Pierre-Étienne Binchedler.
Bonjour madame, félicitations pour la prononciation de mon nom de famille.
J'ai décomposé. Vous êtes le PDG de Soprema qui signifie Société de produits et de revêtements d'étanchéité Mammouth. Alors on va dire tout de suite pourquoi il y a un mammouth dans cette aventure.
Faut-il que je reprenne toute l'histoire de la société à ce moment-là?
On va remonter. Tout démarre, j'ai dit 1908.
C'est exactement ça. Mon arrière-grand-père qui était à Bâle et monté à Strasbourg, parce qu'il faut savoir quand même qu'à l'époque la Suisse était moins riche que ce que l'était l'Alsace à l'époque, pour fabriquer des émulsions bitumineuses. En Alsace, nous avions des mines de bitume à l'état naturel dans le nord de l'Alsace. Et il a commencé à fabriquer de l'émulsion bitumineuse, telle que vous la connaissez, pour faire les routes. Et en 1909, il a trempé une toile de jute, vous savez, c'était ces gros sacs de pommes de terre, dans du bitume pour en faire les rouleaux d'étanchéité, qui ont bien évidemment largement évolué, mais qui, dans l'esprit, sont les mêmes. Et à l'époque, il était d'usage de donner au produit le nom d'un animal et il venait d'être découvert en Sibérie des mammouths. Et donc, ils en parlaient apparemment dans tous les journaux. Et voilà comment est né le nom du mammouth. Et en Alsace, les gens disent encore « on va poser du mammouth », ce qui fait que le nom est resté. Et Soprema est l'acronyme de ce que nous représentons.
Alors, c'est votre grand-père ensuite qui va prendre la suite, qui entre-temps rachète les parts allemandes, parce qu'il y a une partie allemande dans cette aventure. On est après-guerre, je crois qu'on est en 1918, c'est ça ?
C'est exactement cela. Donc, en 1918, suite à la fin de la guerre, les intérêts allemands devaient sortir des entreprises alsaciennes. Et c'est là où mes arrière-grands-parents et grands-parents rachètent les parts des associés allemands. Et l'entreprise a dû se reconvertir totalement d'un marché qui était le marché prussien, puisqu'à l'époque c'était la Prusse, pour revenir sur le marché français. Donc l'Alsace était dans une situation souvent un peu entre la Prusse, l'Allemagne ou la France. Et prend la direction de l'entreprise à partir de 1940, puisque lorsqu'il y a eu les Allemands sont rentrés en Alsace, mes arrière-grands-parents et grands-parents ne souhaitaient pas travailler avec le régime en place.
Ils sont partis du côté d'Avignon.
Et ils sont partis du côté d'Avignon, et c'est là où mon grand-père, puisque mon arrière-grand-père est mort peu de temps après, rien à voir avec la guerre, a remonté une société difficilement pour pouvoir fabriquer des matériaux d'étanchéité. Et je crois que ça devait être une sacrée expérience, parce que trouver des matériaux pour pouvoir fabriquer monter une usine, ça ne devait pas être simple.
Vous arrivez beaucoup plus tard dans l'aventure. On est en 1992. Finalement, c'est vous qui reprenez la suite de votre grand-père. À l'époque, le groupe n'est pas forcément très en forme. En tout cas, il est vieillissant, et vous vous dites qu'il y a un potentiel, il faut l'exploiter, il faut rebooster tout ça.
Oui, alors en fait, je travaillais dans une société de conseil en entreprise américaine, et mes grands-parents souhaitaient que je vienne à Strasbourg pour prendre la suite. Et finalement, ça ne s'est pas exactement passé comme cela. La société, effectivement, était une de ces... ça arrive souvent, une société familiale qui vieillit, les dirigeants vieillissent et pas très, peut-être pas très adaptée à son environnement. Et mes grands-parents sont... Enfin, ma grand-mère est décédée peu de temps après mon arrivée, et ça a été une bagarre familiale avec d'anciens actionnaires, comme souvent il y a dans les sociétés familiales sur une certaine durée. Il y a un certain nombre d'intervenants qui ont des intérêts très divergents. Et là, ça a été une concurrence entre moi et d'autres actionnaires pour pouvoir racheter la société. Donc, ceux qui ont vendu ont fait une excellente affaire, et je suis très heureux pour eux. Et moi, à l'époque, j'avais 31 ans. Donc, vous savez qu'on a 31 ans, on agit, on réfléchit après. Moi, je me suis retrouvé couvert de dettes, et il fallait redresser la société en 92. Ça a été relativement particulier, puisque la société n'était pas très florissante. Et en plus, c'est arrivé la crise du bâtiment en 1993. Et il a fallu redresser tout ça.
Laurent, le coach.
Il y a quelque chose que je trouve remarquable dans l'aventure, au-delà de cette histoire avec des hauts, des bas, la résilience, c'est que vous êtes extrêmement responsable. Vous l'êtes beaucoup sur les dimensions écologiques, ça se voit, dans le mécénat aussi, mais aussi, je trouve, dans vos propos sur les gens et sur le bassin d'emploi, sur le fait de travailler avec Pôle emploi. Vous avez vraiment une perspective très sociale, je trouve, de votre entreprise.
Peut-être que c'est l'histoire de cette région de l'Europe où le sens de la relation à ses collaborateurs a toujours été très fort. Vous savez, vous reprenez Mulhouse, les industries textiles ont été les premières à monter leurs écoles pour les ouvriers, mettre des logements pour leurs ouvriers également. Donc c'est peut-être lié à ses origines géographiques, et je n'ai peut-être pas tellement de mérite en cela, et c'est tout à fait naturel de le faire. Et ceci étant, je crois que c'est naturel de le faire.
Aujourd'hui, vous avez 44 sites, vous êtes un des leaders dans le monde, chiffre d'affaires important, hein, puisque vous dites cette année, on devrait arriver aux 3 milliards d'euros. Vous avez aussi inventé une première mondiale, les boîtes plastiques de beurre opaque recyclables. Il y a énormément de brevets, il y a énormément de choses qui se passent chez vous, chez Soprema.
Oui, on essaie de travailler sur tous les paramètres. Vous savez, une entreprise, puisque mon coach aujourd'hui est un grand spécialiste de l'entreprise. Il y a trois choses qui sont importantes: les clients, les produits ou les services que vous vendez, les collaborateurs. Mais finalement, si vous n'avez pas les collaborateurs, vous n'aurez pas le reste. Donc vous devez travailler sur tous les paramètres à la fois. Et effectivement, on travaille depuis plus de 10 ans pour essayer de se retirer de l'origine de nos matières premières qui sont toutes pétro-sourcées. Alors au départ, on est parti dans un effet de mode qui était le bio. On s'est rendu compte que pour avoir une compétitivité avec le bio, ce serait très difficile. Et donc on est parti dans le recyclage, enfin dans les deux voies, et on appelait ça l'éco-sourçage. Et effectivement, depuis 2 semaines, nous avons une usine qui traite des produits que personne ne sait traiter aujourd'hui, que sont les fameuses barquettes plastiques opaques, oui. Et nous en refaisons des matières premières. Donc, si jamais des hommes politiques écoutent, le plastique n'est pas forcément mauvais, ça dépend de ce qu'on en fait après.
La suite, c'est quoi? C'est continuer à écrire l'aventure en famille?
Ah ben, j'espère bien. Vous savez, tout le monde qui a une entreprise souhaite la transmettre plutôt à sa famille. Alors aujourd'hui, elle est d'une taille assez importante. Vous prenez d'autres entreprises allemandes. La famille ne dirige pas toujours, mais choisit les managers. Et je crois qu'une société familiale a quand même beaucoup d'avantages, puisqu'on peut faire des choix stratégiques à très long terme. On peut avoir une année de mauvais résultats sans être complètement paniqué par les commentaires qui vont être faits par la bourse. Et ça, c'est un gros avantage. Ce qui n'empêche pas d'être, et ce qui oblige quand même à être performant.
Et c'est ce que vous êtes, puisque vous faites quand même 60% de votre chiffre à l'export et que vous êtes mondialement connu. C'est Soprema, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Merci beaucoup, madame.
Il est 13h48.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
L'eczéma touche plus de 2 millions de Français. Demain, c'est la journée nationale. L'occasion de télécharger l'appli pour vous aider à trouver des solutions si vous en êtes atteint. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 et tous les jours, juste avant 14h, Raphaël Duchemin, vous nous proposez la solution du jour et aujourd'hui, elle va soulager les nombreux Français atteints d'eczéma.
Et oui, à la veille de la journée nationale de l'eczéma, gros plan effectivement sur cette maladie qui touche plus de 2,5 millions de personnes. Elisabeth, je crois que vous avez trouvé une appli.
Oui, parce que l'eczéma, c'est la deuxième maladie de la peau la plus fréquente. Alors, il y a plusieurs sortes d'eczéma. Vous avez l'eczéma de contact, l'eczéma atopique et l'eczéma des mains et tout ça, ça peut empoisonner hein, littéralement la vie des malades, envie de se gratter, des rougeurs. Et l'eczéma a une influence sur la qualité de vie des personnes concernées. Et puis parfois, l'eczéma aussi, ça se voit, hein, notamment pour l'eczéma des mains qui se manifeste par une inflammation sur les mains, plaques rouges, croûtes, démangeaisons. Ça peut devenir une souffrance et un handicap dans la vie. Bonjour Stéphanie Méran.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de l'Association française de l'eczéma et vous avez lancé cette application Vivre avec un eczéma des mains. C'est le nom de l'appli. Comment ça fonctionne justement cette appli ?
L'idée est venue vraiment de des patients et des dermatologues aussi. On a été soutenus par le réseau Eczéma qui nous a aidé à faire cette application. Donc une application qui est un peu une sorte de carnet de santé digital. On peut prendre en photo ces plaques, parce qu'entre deux consultations, parfois, on a des crises et on n'a pas la possibilité de prendre son rendez-vous directement avec son dermatologue. Donc, c'est un peu pour préparer la consultation suivante. Donc, des photos sur l'évolution voilà, de la peau. On a une sorte de bloc-notes pour noter le facteur déclenchant.
À quel moment la crise est survenue ?
Voilà, c'est ça. Ensuite, on a tout ce qui est aussi alarme, par exemple, pour bien penser à mettre sa crème ou si on a un traitement aussi par voie orale, parce que pour l'eczéma des mains, c'est aussi possible d'avoir un traitement un peu plus lourd. Donc voilà, c'est des petites astuces pour essayer d'améliorer le quotidien et le suivi, surtout des patients.
Et c'est le cas, hein, j'imagine, vous avez déjà des personnes qui sont connectées à votre appli et qui voient l'évolution de leur maladie.
Oui, tout à fait. Bah, c'est une application qui est récente. Hein, elle est sortie en début d'année, puis on a
déjà
pu faire la communication aussi à notre...
Vous avez déjà du recul ?
Oui, voilà, on a plus de 200 patients qui utilisent l'application et qui en sont contents. Alors après, c'est vrai qu'il y a des évolutions à faire et ce qu'on voudrait rajouter plus de vidéos et de témoignages de patients, parce que c'est vrai que les témoignages de patients, ça plaît beaucoup aux patients.
Justement, vous voulez mettre des témoignages de patients parce que l'eczéma, il faut le dire, c'est aussi une maladie qui isole, parce qu'on en a un peu honte d'en parler.
C'est ça, oui.
Laurent. Oui, justement, comme c'est handicapant aussi dans l'estime de soi, dans la manière de peut-être aussi d'être exposé au monde. À l'inverse, c'est dans votre application, c'est aussi un réseau social finalement. Est-ce que les gens qui souffrent de ça peuvent en parler ensemble, peuvent se retrouver en communauté et justement être un peu moins peut-être exposés au regard des autres puisqu'ils partageraient la même communauté ?
Alors c'est sûr que c'est pas ce qu'on a pu faire sur l'application parce qu'on n'avait pas non plus le budget pour faire ce genre de choses, mais on le fait aussi sur notre page Facebook de l'association. Il y a une communauté quand même très importante qui discute entre eux suivant les sujets qu'on aborde. Et c'est vrai que l'eczéma des mains, c'est ce qui est difficile, c'est que c'est une maladie qui est liée au milieu professionnel. En fait, c'est parce qu'on a les mains trop souvent dans l'eau ou trop souvent en lien avec des produits agressifs pour la peau. Donc c'est important qu'on puisse. Les patients ne sont pas tout seuls, on est là.
L'eczéma des mains, est-ce que la suite, c'est élargir justement à d'autres formes d'eczéma ou est-ce que pour l'instant, vous voulez affiner sur cette particularité-là ?
Ben c'est vrai que tout est une question de budget forcément, mais c'est des choses qu'on aimerait bien faire évoluer dans le temps, oui.
Alors, vous êtes aussi la fondatrice de l'Association française de l'eczéma et vous voulez aussi, à travers cette appli, aller à l'encontre hein, des préjugés qu'on a contre l'eczéma. Je crois que vous organisez d'ailleurs demain une matinée à la Cité universitaire à Paris pour faire en sorte que les patients, les personnes malades se rencontrent, en parlent. Je crois qu'il y a des ateliers aussi.
Oui, c'est ça. Le matin, c'est des conférences donc sur les différentes formes d'eczéma. En fait, on a des intervenants qui viennent de toute la France, donc on est vraiment ravis. Avec une conférence sur l'eczéma et la pollution qui sera vraiment très intéressante parce que voilà, c'est des choses du quotidien qu'on peut pas forcément, sur lesquelles on ne peut pas forcément agir. Donc c'est important.
Et je crois que c'est surtout pour dire que l'eczéma, ce n'est pas contagieux parce qu'il y en a
qui... Ah oui,
qui
non, ça c'est sûr que non.
Et là, mais c'est bien de le préciser parce que c'est bien aussi de tordre le cou aux idées reçues.
Ah oui, tout à fait. Et l'après-midi, donc, ce sera aussi des ateliers. Donc, on a des ateliers de méditation en pleine conscience, maquillage correcteur, parce que comme c'est une maladie visible, bah, il faut parfois sentir un petit peu plus sûr de soi. Et le maquillage, ça peut vraiment aider pour ça.
Et donc, c'est demain. On rappelle le nom de l'application et de l'association.
Alors, le nom de l'application, c'est donc « Vivre avec un eczéma des mains ». Une sorte de carnet de santé digital qui vous permet de suivre l'évolution de votre maladie. Et demain, donc, vous avez organisé une journée à la Cité universitaire à Paris, justement pour lutter contre ces préjugés et en savoir plus sur l'eczéma.
Merci d'être venu nous présenter cette solution. Merci à Laurent Chauvin qui était notre coach.
Merci.
On se retrouve lundi et nous parlerons des chercheurs qui lancent leur start-up.